produire des gros sons. Donc manquez pas ça, les architectes du son.
Bon matin, ou plutôt on pourrait dire bon midi, chers auditeurs. Vous avez dans vos oreilles Sarah Manzano, accompagnée de Megan Asselin. Et sur cette belle chanson d'intro qui vient de finir, vous écoutez les affamés, ceux qui ont faim d'actualité. Bon matin, Megan, comment ça va?
Bon matin, Sarah, ça va bien, toi?
Ça va super bien. Écoute, je pense qu'on le sait tous dans nos petits cœurs, dans nos petites têtes et dans nos petites consciences morales que c'est une journée spéciale aujourd'hui. Est-ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui, Megan?
Ben, je suis pas sûre, mais je crois que c'est la journée des élections provinciales aujourd'hui.
Bing! T'as eu la réponse! Tu te mérites maintenant une Toyota Chrysler 2005.
Le rêve.
Oui, donc aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, c'est la journée des élections. Et quelle campagne électorale ça a été. On a vu des débats, on a vu des scandales, on a vu des propos, d'autres mieux accueillis que d'autres. Dans tous les cas, ça a été riche en émotions, riche en événements et surtout riche en votes par anticipation. Je ne sais pas si tu as vu, Megan, mais c'était un des votes par anticipation les plus hauts en pourcentage des dernières années, si c'est pas de notre histoire politique au Québec.
Oui, en effet, c'est intéressant de constater que les gens ont déjà fait leur idée de savoir vers quel parti ils donnaient allégeance, disons.
Est-ce que tu as voté, toi, à date, Megan, ou pas encore?
Oui, moi, j'ai voté jeudi dernier. J'ai fait
mon droit. Dis-nous pour qui? Non, c'est pas vrai, dis-le. c'est des blagues, Megan, c'est des blagues.
Mais toi, ma petite oreille me dit que t'as pas encore voté, Sarah.
Ben non, tabarnouche, quand c'était le vote par anticipation, moi, j'ai décidé d'être colonisée puis d'être cachée à Toronto.
Bon.
Non, en fait, je faisais un petit road trip à Toronto la fin de semaine du vote par anticipation, donc je ne pouvais pas, par conséquent, voter par anticipation. Mais ne vous inquiétez-vous pas, en effet, doublement. je vais voter tantôt, je vais voter ce soir et je vais faire mon devoir de bonne petite citoyenne diligente qui participe à la vie politique. Parce que oui, c'est très important de voter. Non seulement ça va pouvoir nous permettre d'avoir un petit mot sur les enjeux environnementaux, sociaux, politiques, les problèmes dans les systèmes de santé et les problèmes dans les systèmes scolaires. Si vous voulez voir des changements concrets en environnement, au niveau des politiques de l'immigration, à divers niveaux, eh bien, c'est aujourd'hui que ça commence. C'est aujourd'hui que vous pouvez prendre le premier pas. Et le premier pas se fait vers le vote, tout simplement. Et j'en connais beaucoup. J'ai des amis, je sais pas si toi aussi t'as des amis comme ça, Megan, qui aiment pas ça voter, voient pas l'intérêt de voter et se disent... en tout cas, moi, j'en ai même qui se proclament anarchistes et c'est quasiment un mouvement contestataire de ne pas voter. Je sais pas si t'as ça dans ton entourage.
J'ai pas encore eu la chance d'avoir ce type de personne dans ma vie, malheureusement. Mais non, de mon côté, je vais t'avouer que mes amis sont quand même très engagés dans la vie politique.
Fantastique.
Donc,
on les aime comme ça, engagés dans la vie politique. Écoutez, on est tous engagés d'une façon différente et on a tous une vision différente de comment est-ce qu'on devrait agir dans ces temps d'élections-là. Moi, je vous dis, si vous êtes pour ne pas voter, au moins votez à blanc. Votez par vote d'annulation.
Oui, ça va déjà être,
c'est ça, un statement, c'est comme on le dit en bon franglais. Ça va déjà l'être.
Ça montre une insatisfaction envers la société, envers le gouvernement et tout. Donc, c'est très important, là, même si vous n'avez pas un chef préféré, de au moins montrer votre insatisfaction. Là.
Ben oui, parce que juste rester silencieux, ben malheureusement, ça n'envoie pas de signaux particuliers. Vous pouvez être simplement
quelqu'un qui le sait, exactement.
C'est ça. Tu sais, peut-être que vous êtes monsieur, madame, tout le monde qui s'est laissé prendre dans son train-train quotidien, est allé faire son épicerie, puis là, whoop, il a sonné 20 heures, puis vous avez oublié de voter. C'est des choses qui arrivent.
C'est rare que tu oublies de voter, ma foi, Sarah. Là, d'habitude, c'est souvent volontaire.
Ah, man, je veux dire, moi, j'en ai déjà vu du monde, puis ça m'est déjà arrivé, là, être tête en l'air, puis être pogné dans le train-train quotidien. Tu finis par oublier des affaires comme un vote. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive au meilleur de tous. Bien entendu, là, les candidats qui sont sur leur dernier blitz de campagne, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de faire de publicité, d'incitation, etc. Par contre, ils ont droit de réagir et ils vont chacun avoir leur propre soirée d'élection, leur propre party d'élection. D'ailleurs, chers auditeurs, chères auditrices, si tu t'ennuies ce soir, si tu ne fais rien de particulier et surtout si tu ne vas pas à la soirée des élections du pub universitaire qui va être pas mal lit, comme disent les jeunes, eh bien, sur les ondes de Chiz 94.3, on a une soirée électorale qui va commencer à être diffusée à partir de 20h ce soir. Donc, reste à l'affût. Si tu veux quelque chose dans ton background pendant que tu fais à souper, si tu veux quelque chose dans ton background pendant que tu fais à ménage, si tu veux quelque chose dans ton background pendant que tu fais une crise existentielle sur où est-ce qu'on s'en va, mets Chiz 94.3 pour la soirée électorale. Sur ce, sur ce magnifique discours de ma personne, on va se laver un petit peu la tête là, de toute pensée politique et électorale et on va aller en chanson avec Men I Trust. On vous revient dans un petit instant. Si ça veut jouer. Et voilà.
Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous êtes de retour avec dans vos oreilles, les affamés, la douce, la mielleuse voix de moi, ma propre personne, Sarah Manzano, de l'imbu d'elle-même, Sarah Manzano, et de la pétillante, magnifique et superbe Mégane Asselin. Recoucou, Mégane.
Ben, recoucou, ça va?
Ça va bien. Écoute, l'on revient de cette petite pause musicale, tout en douceur, tout en belle petite vibe.
On se réveille encore ce matin.
On se réveille encore. Et là, on va parler un petit peu d'actualité. On a de l'actualité internationale à vous présenter, jeunes auditeurs et auditrices. Mégane, tu as une première nouvelle pour nous qui vient de l'Indonésie, c'est bien ça?
Oui, c'est une nouvelle un petit peu triste, ma foi. Là, on a lors d'un match de foot qu'on dit soccer ici au Québec, ouais. Il y a eu environ 32 enfants qui ont été décédés. Parce que dans le fond, la partie de foot, elle a juste dégénéré, là, faut se le dire. Là, il y a une équipe qui a perdu, les fans étaient en colère, ils ont comme voulu montrer leur mécontentement. Bon, il y a eu des bombes lacrymogènes ouais. qui ont été tirées dans les foules. Les gens ont voulu partir et certains d'entre eux, donc 125 personnes, ont été écrabouillés, ont été...
Ils se sont fait marcher dessus.
Oui,
là.
C'est ça. Ils se sont fait pousser, écrabouiller, dont des enfants, là, parce que les gens, ils voulaient trop partir rapidement. Puis ça a comme fait un...
Fait que ça, dans le fond, ça s'est passé là durant, ça s'est passé samedi soir au stade de, là vous pardonnerez ma prononciation, de Kanjuruhan, c'est ça, de Malang, et ça a eu lieu lors d'un match contre l'équipe locale là du Arema FC, et leur équipe avait perdu 3-2 contre celle de Persebaya Surabaya, la ville voisine. Et ça a vraiment fait, là, on en a déjà vu, là, des grosses manifestations, des grosses démonstrations de mécontentement au UK. Ça, c'est déjà arrivé en Irlande, c'est déjà arrivé des stades complets de personnes mécontentes
outrées,
qui font un petit peu.
Ouais.
C'est ça, du gros protest, mais ça a jamais été aussi loin que ça. Là, la police a réagi en tirant des volées de gaz lacrymogène vers les gradins bondés. Donc, il y avait encore plein de gens dans les gradins, plein de 42 000 spectateurs présents selon les autorités. Et c'est là que ça a commencé vraiment à s'agiter.
Ça s'est dégénéré là, au plus haut point. Là. Les gens, ils se précipitaient en masse vers les sorties, ils voulaient partir. Puis ça, il y a des gens qui ont été étouffés. Là.
Imaginez 42 000 personnes se précipitant en même temps, en grosse masse, vers des portes étroites pour sortir. C'est cauchemardesque. Là. Moi, je suis pas quelqu'un qui est agoraphobique, je suis pas quelqu'un qui a nécessairement peur des grandes foules, mais me mettre dans une situation comme ça où c'est le chaos total, où c'est des personnes qui ont peur pour leur vie, et on sait qu'il y a des personnes qui ont peur pour leur vie, ça peut faire des gestes irrationnels, ou ça peut agir sans penser à ce qu'il y a autour d'eux. Et ça te crée des situations absolument là dramatiques. Là. C'est ça, comme on l'a dit tantôt, parmi les 125 personnes qui sont décédées lors de l'événement, il y avait 32 enfants. Il y avait aussi deux agents de police qui ont été tués lors du drame. Et il y a plusieurs centaines là, de personnes qui sont entre la vie et la mort, très gravement à l'hôpital. Quand même une situation grave, grave, grave. Et ça peut nous montrer à quel point la partisanerie sportive, mais pas juste la partisanerie sportive, un manque de gestion de la part des corps policiers peut vraiment mener à une situation comme ça.
Ben, moi, ce que je trouve ça triste, en fait, c'est qu'on a demandé l'aide aux soldats ou même à la police.
Oui.
Et parce qu'il y avait, en fait, il n'y avait aucun secouriste en vue sur place. Et la police n'a pas aidé. Puis il y a même un soldat qui a menacé de battre les personnes parce qu'il voulait pas de... Tu sais, la police puis les soldats étaient là vraiment pour mettre l'ordre, mais pas pour régler la situation, je dirais.
Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, on a un article du Journal de Québec devant nous et il est affirmé dans l'article... du journal par un témoin que la police avait refusé d'intervenir au mouvement du mouvement de la foule fatale. Donc c'est quand, après qu'ils aient lancé les bombes lacrymogènes et que la foule ait commencé à bouger vers les portes, c'est là qu'ils ont fait « Whoop, ça devient trop pour nous, on ne s'en mêle pas, on va voir comment ça se règle, puis on gérera l'aftermath par rendu là, une fois qu'on sera rendu là. » Moi, ça, tu sais, je sais pas, là, c'est ta job, là, t'es supposé... prêter main forte, ou quand tu le vois qu'il y a une situation comme ça qui est en train de dégénérer, tu le sais qu'il va avoir des blessés, tu commences à caller du backup, tu commences à caller des ambulances, tu restes pas juste là planté à faire comme bon ben c'est réglé, on a mis des bombes lacrymogènes, t'es guidou dans le trou, tu sais.
Non, je sais pas. C'est un drame qui aurait peut-être pu être évité.
Fort probablement.
Mais c'est très triste, en effet.
Sur cette triste nouvelle, on va passer à une autre nouvelle internationale. Bien entendu, on envoie toutes nos pensées aux familles là, des personnes qui ont été touchées là, par le drame de samedi soir dernier. Là, maintenant, une autre nouvelle un peu plus mystérieuse, quand même dans le ton tragique aussi, connaissant le lieu où ça se passe, là, du moins. On a une journaliste dissidente... Ovsianikova, placée sur la liste des personnes recherchées. Donc, la journaliste Marina Ovsianikova a été placée sur la liste des personnes recherchées en Russie, selon une notice consultée lundi par l'AFP concernant cette voie critique du conflit en Ukraine. Elle a entre autres été connue, cette journaliste-là, pour avoir brandi une pancarte pacifiste à la télévision. Donc, en ce moment, c'est un peu nébuleux les raisons de sa disparition. Elle était supposée être à quelque part le 9 octobre et elle ne s'y trouvait pas. Depuis, elle est sur la liste des personnes recherchées. Elle avait beaucoup attiré l'attention, pas juste des médias, en tant que journaliste avec beaucoup de discours très... choquant dans un contexte médiatique russe, mais aussi, en tout cas pour toutes ses propos envers la guerre en Ukraine. Là, je ne sais pas si tu avais lu un petit peu là-dessus, là, Mégane.
Ben, j'ai pas lu nécessairement sur le sujet, mais moi j'ai été témoin quand elle a décidé là. Tu sais, cette femme-là, je la trouve très courageuse. Là, ça faisait 20 ans qu'elle travaillait pour les nouvelles.
Ouais.
Et elle a sorti une pancarte, elle l'a braquée et elle a dit... me semble que sa pancarte, ça disait ne faites pas confiance à la propagande russe.
C'est ça, je l'ai devant moi. Ouais. Là, elle avait agité une pancarte en plein direct. Donc, pendant qu'on filmait l'émission en direct. Et elle appelait à la fin des combats en Ukraine. Et sa pancarte était écrite ne croyez pas la propagande.
Moi, je trouve ça, sérieusement, c'est très courageux. Puis, étant dans un pays comme la Russie, je trouve que cette femme-là a eu énormément de cran de faire face à la Russie malgré tout ce qui se passait, puis de dire non, garde la population en droit d'avoir les vraies informations, puis arrêtez de tout croire ce que la Russie veut vous faire croire. Là, réveillez-vous. Là.
Oui, puis c'est pas. Ça s'ajoute à une suite d'événements, soit en rapport à la disparition ou à la mort de personnes plus ou moins affluentes, tout dépendamment de où est-ce qu'on regarde sur le spectre. Mais il y a plusieurs oligarques dans les derniers mois, dans les dernières semaines, dans les dernières années, qui, sont morts dans des circonstances mystérieuses ou similaires à leurs autres camarades. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus soulevé, qui est de plus en plus pointé du doigt, surtout... pointer du doigt vers Poutine. Mais c'est jamais affirmé, vraiment. C'est tout le temps laissé un petit peu dans les airs, surtout laissé un petit peu dans les vapes, parce que c'est des accusations très sérieuses qui seraient faites envers le président, et c'est des situations très sérieuses. C'est vraiment rempli de mystères, cette situation-là. La guerre en Ukraine... T'sais, récemment, on avait eu la question là, de la population annexée, de Poutine qui dit « peu importe ce qui arrive, cette population-là annexée restera toujours russe ». Et encore là, Zelensky qui veut toujours pas nécessairement discuter avec Poutine, qui continue d'insister pour rentrer dans les pays de l'OTAN. C'est vraiment une situation qui est particulière. Là. Et cette dame-là, elle a utilisé sa plateforme, cette journaliste-là, elle a utilisé sa plateforme pour... propager le message, essayer d'aller à l'encontre du flot médiatique, parce qu'on s'entend, la Russie met de l'avant un certain message médiatique, un certain point de vue médiatique qui est peut-être pas nécessairement représentateur de la réalité. Et comme tu le dis, là, c'est assez impressionnant qu'elle ait voulu dénoncer ça, mais là, on voit où est-ce que ça l'a peut-être mené.
Ouais.
On ne sait pas où elle est, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'elle est partie de son propre gré. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Mais c'était pas la première fois là, qu'elle avait, en tout cas, eu des altercations comme ça. Et à un autre moment, elle avait brandi une pancarte qui disait non à la mobilisation. Elle avait déjà eu des amendes, elle avait déjà été interpellée. Suite à des interventions qu'elle avait faites dans les médias. Elle avait ensuite quitté le pays aussi pour travailler pour un média allemand, Die Welt. Je sais pas si je le prononce bien, mais mon allemand est loin d'être parfait, en fait. Donc, quand même, une série de situations qui ont fait qu'elle se mettait dans un certain point de mire.
Ouais.
Je dis pas que c'est de sa faute, là. Je dis pas que c'est... qu'elle a cherché ce qui est peut-être en train de lui arriver, mais vraiment, c'était une personne controversée aux yeux du gouvernement et là, sa disparition soulève beaucoup de questions et continue d'en soulever beaucoup, surtout que de plus en plus, avec les tensions politiques qui se propagent à travers le monde, tu sais, t'as dû voir ça passer là, à travers les semaines. Il y a de plus en plus de journalistes qui sont disparus, blessés ou qui sont morts vraiment sur le terrain.
Ouais.
À cause de tensions politiques extrêmement particulières, extrêmement graves. Donc, c'est un métier, là, vraiment, journalisme à l'international, que ça a son lot de défis, ça a son lot de craintes. Là. Si vous êtes des aspirants journalistes, watchez vos arrières, comme on dit. écoutez, sur cette... là, ça fait deux nouvelles un petit peu plus rough, là, un petit peu plus... sur la triste réalité du monde et de la Terre. Donc, on va
positif.
C'est ça, on va y aller vers quelque chose de positif. On va y aller vers les avancées. Les avancées, plus précisément, dans le domaine de la science et de la médecine. Aujourd'hui, on va vous parler du prix Nobel de la médecine. Je ne sais pas si toi, tu as vu passer ça, Megan.
Oui, j'ai lu un petit peu là, que le prix Nobel de la médecine avait été donné au Suédois Svante Barbo.
Yes, encore une fois, chers auditeurs et auditrices, on va excuser notre accent.
Je suis désolée, je connais pas.
Malheureusement, on ne parle pas suédois, mais Svante Paabo, et on le qualifie de chasseur de l'ADN préhistorique. Et quelle recherche, qu'est-ce qu'il a fait là, pour qu'on lui donne ce prix Nobel de la médecine cette année?
Bien, de ce que j'ai compris, parce que moi, j'ai beaucoup de talent dans ma vie, Sarah, là, mais. La science, là, ça n'en est pas un.
Ça n'en est pas un.
Mais de ce que j'ai compris, c'est le pionnier de la séquence complète pour le génome de l'humain de Néandertal.
Wow, Megan.
Qu'est-ce que ça mange pour souper l'hiver?
Là, Megan, t'es en train d'oublier que je suis blonde et par conséquent, selon les stéréotypes sociétaux, stupide. Non, c'est pas vrai. J'ai quand même un minimum d'intellectualité. Ces gros mots, cette grande phrase-là, qu'est-ce que ça veut dire? Le séquençage complet du génome de l'homme néandertal. Un génome, on vous le rappelle, c'est l'ensemble de chromosomes et de gènes qui créent l'ADN d'un être humain ou d'un être vivant particulier. Et le séquençage, c'est sa description systématique. Donc, comment est-ce que ces génomes-là et ces chromosomes-là s'enchaînent pour créer l'ADN? Et lui a été capable de recréer au complet le séquençage du génome d'un homme néandertalien. Et c'est la fondation de cette discipline-là qui remonte à l'ADN du fond des âges pour éclairer les gènes humains tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, ces hommes-là, néandertalais, qu'est-ce qui, dans leur ADN, qu'est-ce qui, dans leur génome, fait que nous sommes les êtres humains que nous sommes aujourd'hui? Et avoir un portrait complet de leur séquençage, de leur génome, ça va nous permettre de potentiellement faire des avancées sur l'évolution, certains gènes qui ont été perdus ou qui ont été renforcés avec le temps. Donc, c'est quand même une découverte qui est assez... importante là ici on a le jury Nobel là qui est cité dans un article et qui dit en révélant les différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants des hominés disparus, ces découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous humains des êtres aussi uniques. Donc c'est un petit peu là ce que je viens de résumer, ça nous donne vraiment un aperçu sur comment est-ce qu'on est évolué en ce qu'on est aujourd'hui? Parce qu'on s'entend. Je sais pas si t'as déjà vu des photos d'un homme néandertalais, mais on ressemble plus à ça. Je suis un peu contente de plus ressembler à ça. Là.
Moi aussi, je suis quand même assez contente, je vais t'avouer.
Moi, je vais t'avouer qu'un front de comme 4-5 cm d'épaisseur là, avec je sais pas, là, une bonne arcade sourcilière, ça me ferait peut-être un petit peu moins. Là,
tu serais peut-être moins cute.
Oh, tu veux-tu dire que je suis cute?
Je le dis en direct live.
Et là, tu vas me faire rougir. Fait que là, c'est ça. Puis en plus, ce qui est assez surprenant de cet homme-là, c'est que son père est aussi un ancien gagnant du prix Nobel de la médecine il y a quelques années de ça. J'essaie de retrouver l'année là à l'instant. Mais oui, c'est ça.
En 1982, la récompense ouvre une dynastie improbable. Son père, il s'appelait
Sune Bergstrom.
Ouais, j'ai l'impression de détruire le mot, là, mais d'une façon incroyable.
C'est des choses qui arrivent. Écoute, et sûrement qu'il y aurait de la difficulté à prononcer certains de nos noms aussi, il n'y a pas de problème. Et c'est ça, son père avait également reçu le prix Nobel de la médecine en 1982 pour avoir découvert des prostaglandines. Et on rajoute une couche de tea, on rajoute une couche de scandale à l'histoire. C'est qu'en réalité, son père est... il l'a eu comme enfant illégitime. Donc, Svante est un enfant illégitime et il ne l'a pas connu avant, plus tard dans sa vie adulte. Donc, sans même, il a grandi une partie de son enfance sans connaître son père, sans savoir que son père était un gagnant de prix Nobel. Wow. Et il a lui-même finalement grandi pour devenir...
C'est spécial quand même, hein?
Je veux dire, écoute...
Puis il a gagné le même prix, là. C'est pas c'est le prix Nobel de la médecine, là. C'est prestigieux, là.
C'était pas pour le même type de recherche, par contre, mais c'est quand même des recherches qui vont un petit peu de main en main et qui sont très similaires. Donc, vraiment, là, c'est assez fascinant comme histoire. Et, tu sais, si on fait une petite histoire, là, un petit résumé global, là, de où est-ce qu'on en est rendu avec les prix Nobel de la médecine ou de physiologie, en ce moment, c'est le... C'est ceux-là, ils sont rendus avec ce 113e Nobel de médecine ou de physiologie. C'est maintenant 226 personnes qui se sont vues décerner le prix depuis sa création. Et parmi ces 226 prix Nobel-là qui ont été distribués, il y a 12 femmes.
Et j'espère pour les années futures qu'il y en ait plus.
Ah ben oui, crime. C'est certain, s'il y en a pas plus, je vais pleurer. Je sais pas quoi faire. Là. Genre, hey, let's go la gang, on est capable, rallions-nous et faisons de la science. En tout cas, c'est certainement pas toi ni moi qui allons contribuer.
Non, c'est ça, exactement. On vous laisse la place, les femmes, mais peut-être pas nous pour aujourd'hui.
En tout cas, vous avez toutes... Mes encouragements, mes cheers, je peux être votre représentante en communication si ça vous tente. Let's go. Par contre, question cerveau et science, je peux vous dire que la mitochondrie, c'est la powerhouse de la cellule. Sinon, mes études...
Je te trouve très bonne. Pour vrai, là...
mes sciences de secondaire sont restées imprégnées, là. Outre ça, ça ne va plus très haut. Donc, c'est ça. Donc, c'était notre nouvelle un petit peu plus légère pour l'instant. On va, par contre, s'en aller en pause publicitaire et en pause musique. Et on vous revient avec plus de nouvelles après la pause. Ça ne sera pas très long. On va vous faire écouter du beau, du magnifique, du mystérieux Violette Pie qui joue maintenant.
J'ai lancé ma vie à l'aide d'un élastique attaché à des barils de pétrole à portée de la corde au cas où je ne serai plus seul. Je m'attache plus souvent que je ne décolle. Il n'y a rien de grave mais tout est important. Je ne tue pas tous ceux qui déconnent. Je parle un peu plus et j'enlève mes gants blancs. Je suis sûr que mes mains tatouées bétonnent prêtes au décollage. Direction les nuages, en apesanteur avec toi. En apesanteur, en apesanteur. Ce que j'aime à l'aide d'un élastique attaché à une bouteille d'alcool, rattraper ma crise en poème sincère. Tu sais, les paroles parfois sont énormes. Elles soignent les fous, elles filtrent les piscines comme un thé vert en feu, éliminent les toxines. Et tes jolies lèvres me rappellent à chaque fois que je me lève que je suis un astronaute en air.
Avide de découvertes? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chise.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chise.ca.
Moi, c'est Robert, j'aime vraiment Linux pis des kiwis des nerds.
Eh oui, Robert, pour citer un grand homme, l'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Ben oui, vous êtes de retour aux affamés, ceux qui ont faim d'actualité. Et maintenant, plus juste d'actualité, mais faim pour leur lunch aussi. coucou Megan, on est de retour de pause. On écoutait Violette Pie, Les huîtres de Julie Payette. C'était un beau petit classique là, pour moi. Là, en tout cas, ça fait quand même quelques années que j'écoute Violette Pie. Et c'est toujours de la poésie à mes oreilles. Sais-tu ce qui n'est pas de la poésie à mes oreilles, Megan?
Non.
Entendre parler de la pollution du golfe du Saint-Laurent.
Ah oui.
Tabarnouche, tabarnouche. Ben oui, on s'en va dans des nouvelles un petit peu plus environnementales, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, on va parler d'un article du Journal de Québec qui est sorti dans l'actualité environnementale et qui réfère à la pollution du golfe du Saint-Laurent comme étant un désastre environnemental, selon une équipe de chercheuses de l'expédition bleue. Donc, petite mise en contexte, là. Cette équipe de chercheuses-là ont étudié le phénomène de pollution à bord d'un voilier. Et ce qu'ils ont trouvé là, est assez aberrant à leurs yeux. Et elles dénoncent l'effet de cette pollution et des changements climatiques sur la biodiversité de nos eaux et des environnements environnants. Hey, c'est un beau virulent, ça!
Wow!
On a Anne-Marie Asselin.
Ha! Hey!
Asselin! Yeah!
Ça me parle!
Chef de la mission et directrice générale d'Organisation Bleue, qui dit « Partout, on a constaté l'omniprésence de la pollution plastique sur les berges. On avait des hypothèses, on soupçonnait que certains lieux étaient plus pollués que d'autres, mais là, on parle d'un désastre environnemental. » Donc vraiment, elle pèse pas ses mots, là.
Non, très, très honnête. Puis c'est selon une expédition qui a duré, on peut se le dire, 17 jours.
Quand
donc,
même.
C'est pas juste une petite après-midi à se promener en bateau, là. Tu sais, ça a été... Il y a des débris qui ont été collectés, il y a des recherches qui se sont faites. Elles étaient sur place, comme je pourrais dire, et elles ont constaté là, le désastre qui s'est produit.
Ben oui, et là, tu vas peut-être me dire, j'entends quelques auditeurs potentiellement crier au loin « Mais Sarah, pourquoi on ferait confiance à une personne random sur un bateau qui s'auto-proclame scientifique? » Ben, c'est pas juste une personne random sur un bateau qui fait une expédition de 17 jours parce que ça lui tente. C'est 7 chercheuses, vraiment là, d'une expédition scientifique. Et c'est toutes des scientifiques, là. C'est toutes des personnes qui ont des études dans le domaine, qui sont des professionnels. Donc, il faut quand même leur faire confiance, même si c'est difficile de faire confiance ces temps-ci, ça a l'air.
Mais tu sais, faut s'appuyer sur les faits, Sarah. Tu sais, on a ramassé plus d'un quart de tonne de déchets juste pour les prélèvements qui ont été faits dans 10 stations d'échantillonnage.
Ben oui, et tu sais, c'est toutes des stations, là, des sites protégés par la province ou le fédéral. Donc, c'est supposé des lieux qui régissent à certaines normes, à certaines attentes au niveau de l'environnement. Et ces lieux-là, c'est tout entre Sept-Îles, la Côte-Nord, Havre-Aubert et l'Île-de-la-Madeleine. Donc, c'est vraiment plusieurs points qui sont supposés être somewhat propres d'un point de vue écologique et ça ne l'est pas du tout. Les chercheuses ont collecté une quantité incommensurable de débris qui se trouvaient sur les berges et au cœur du gyre du golfe. Donc vraiment, ça n'arrêtait pas. Un quart de tonne de déchets, comme tu l'as dit, c'est énorme. C'est dans nos eaux, c'est dans nos poissons. Et je vais peut-être paraître têteuse, puis je vais peut-être paraître tannante, là, mais c'est une autre instance où on pense aux enjeux climatiques et aux enjeux climatiques viennent l'action politique. Donc, encore une fois, c'est avec des constats comme ça que crime, il faut poser des actions, il faut faire des changements, et ça passe en premier par les élections. N'oubliez pas d'aller voter ce soir. Je vous le rappelle, ding, 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 c'est notre appel de mi-démission pour aller voter. Si ce n'est pas encore fait, allez-y d'ici ce soir, 20h. Donc, c'est des constats environnementaux, là, de désastres environnementaux comme ça.
Y a même,
ça nous rappelle ça.
Il y a une hypothèse de Mme Jivenes Moratala qui dit que l'eau du fleuve se réchauffe.
Se réchauffe.
Et selon elle, ben, tu sais, qui est de moins en moins. L'eau qui se réchauffe est de moins en moins oxygénée. Et c'est une hypothèse en plus à cause du plastique. Tu sais, selon elle, ce serait une cause à effet. Là.
OK. Puis, tu sais, on. Une eau qui se réchauffe, ça déstabilise un écosystème complet. Ça peut rendre prolifique la croissance de bactéries ou de corps étrangers dont on ne veut pas. Ça vient vraiment débalancer un écosystème complet. En plus, tu rajoutes ça à l'élément écologique de plastique dans les eaux, dans nos poissons, dans nos ressources. Tu sais, en tout cas, je dis pas... Là, je m'en vais dans les propos de petite fille dramatique, fataliste, puis je dis qu'on est faite, mais tu sais, moi, je vois un futur où, genre, tabarnouche, ça va être difficile. Tu sais, ça va être difficile de prendre de l'eau, ça va être difficile. Tu sais, déjà, il y a quelques années, il y avait l'interdiction de se baigner là, dans le fleuve et dans les golfs et tout ça. Tranquillement, c'est en train de revenir. Ça va jeter ça à l'eau pour pas faire un mauvais jeu de mots.
C'est sûr que ça s'améliore pas, là, je vais t'avouer. Puis même, tu sais, nous, on est tellement... On est un pays qui est vu selon justement notre beauté naturelle, nos zones aussi, nos ça. Côté touristique, ça va peut-être finir par faire mal également. Là, tu sais, je pèse mes mots, mais tu sais, c'est des choses qui pourraient arriver dans le futur.
Ouais, c'est sûr que ça pourrait avoir un impact à ce niveau-là. On va rester un petit peu dans la conversation de l'eau, mais on va s'en éloigner un petit peu en même temps. Une nouvelle là, à propos de Hydro-Québec et de l'augmentation des prix de l'énergie un petit peu partout à travers...
Oui, Sarah!
On va continuer de parler d'inflation, puis on va continuer de parler d'environnement. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là?
En fait, là, on va commencer par le commencement. Il faut savoir qu'il y a une forte augmentation des prix de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine. Hein, tu sais, des fois, là, l'inflation, là, ça vient à cause de relations politiques. Tout est lié, comme on dit. Et on rencontre même une crise en Europe là, à cause que ils sont pas capables de se trouver de gaz naturel, puis ça a même des répercussions jusqu'au Québec.
Faut le préciser, il y a de la misère à se trouver des gaz naturels parce que la Russie était un des plus gros fournisseurs et
c'est
maintenant
ça. Exactement pour des relations politiques, des raisons politiques, je dirais plutôt, l'Europe a décidé de fermer les portes à la Russie, puis là elle se retrouve un peu dans l'embarras là, tu sais. Elle veut pas non plus que sa population manque d'électricité et tout. Mais du côté d'Hydro-Québec, là, c'est une belle opportunité là, parce que depuis ce temps-là, ben, lui, il vend ses kilowatts plus cher sur les marchés de New York et de la Nouvelle-Angleterre.
Ouais.
Cependant, ayant une hausse dans ces environnements-là, il y a une hausse de notre côté au Québec aussi.
Mais oui, c'est
aussi.
Ça qu'il va y en avoir.
Fait qu'on s'attend là, à une autre augmentation des tarifs d'électricité pour le 1er avril prochain de 3 %
quand même.
Habituellement, ça devait suivre l'inflation. Cependant, étant donné que l'inflation a juste dépassé les bornes cette année, le gouvernement a décidé de limiter ce chiffre-là à 3 % Mais là, moi, Sarah, là, je vois des chiffres devant moi là, que je trouve quand même ça intéressant. On dit souvent, ah, l'électricité, ça coûte cher, l'hydro, ça n'a pas de bon sens.
Est-ce que c'est les comparaisons de quel pourcentage chaque type d'énergie va augmenter?
Non, c'est plus bas, en fait. Là. Moi, je l'appelle là, quand on se compare, on se console. C'est les tarifs d'électricité résidentielle selon différentes villes.
Oh, wow, OK, ouais.
Tu comprends? J'ai été quand même abasourdie de voir que à Boston, qui est une ville aux États-Unis, les gens payaient 26 cents par kilowatt US.
Ouais, 26 cents US, là.
Tandis qu'à Montréal, on paye 7,1 cents canadiens par kilowatt. Wow. Fait que, tu sais, oui, ça coûte cher, mais quand on se compare à des grosses villes comme Boston ou New York qui vont payer plus haut que 20 sous le kilowatt US,
on se console un petit peu.
Je trouve ça, je me console personnellement. Je me console, là, c'est pas des beaux chiffres.
Non, c'est certain que c'est assez particulier. Et il va falloir faire attention avec Hydro-Québec. Là, faut préciser, j'avais les chiffres devant moi tantôt, mais ils ont des contrats, là, vraiment, avec New York et l'autre.
Le Massachusetts.
Et je pense que respectivement, les contrats, c'est pour alimenter pour les 20 et 25 ouais, prochaines années.
Exactement.
Cependant, il y a certains chercheurs qui ont estimé que on risque de manquer d'eau/ de ressources pour faire de l'électricité d'ici 2030 à 2040.
Quelle belle nouvelle, Sarah!
Si on continue de comme trop fournir à trop de gens, il risque de se produire ça. Donc, je pense qu'il va falloir réévaluer certaines ressources.
Ouais.
De toute façon, ça semble être une solution temporaire en attendant qu'il se trouve, comme il disait, là, des ressources parallèle pour le gaz
naturel,
exactement. Et tantôt, tu as parlé de statistiques, tu as sorti des chiffres, ben ça va être à moi de t'en sortir des chiffres
oui,
aussi. On va regarder seulement pour le Québec, par contre.
OK.
Pour le Québec, bien entendu, c'est pas tout le monde qui chauffe à l'électricité. T'as des gens qui chauffent au gaz naturel, qui chauffent au mazout. Et toutes ces sources énergétiques-là vont augmenter à travers les prochains mois, les prochaines semaines. Et c'est quand même des pourcentages assez importants, donc je pense que c'est bien de les souligner là pour nos auditeurs et auditrices. Pour le gaz naturel, on estime une augmentation de plus ou moins 7,8%. Donc, après avoir encaissé une augmentation historique de 15,6% sur leur tarif de l'an dernier, les consommateurs québécois de gaz naturel font face cette année à une hausse importante d'au moins 7,8% cet automne. Donc, ça commence maintenant. Et il y a environ 100 000 ménages québécois qui utilisent le gaz naturel pour se réchauffer, donc ça a quand même un impact sur la population. Pour ce qui est du chauffage au mazout, là, c'est là que ça va venir à être un bon coup de poing dans le gut.
Je te vois faire le signe, là, c'est magnifique.
Moi, je lis ça puis j'ai mal, là, pour ceux qui chauffent au mazout. Les consommateurs résidentiels de mazout vont devoir voir environ une augmentation de plus ou moins 18%. Bien entendu, ces consommateurs-là se font de plus en plus rares au Québec, mais ceux qui utilisent toujours cette source d'énergie-là devront payer vraiment plus cher que pas mal tout le monde cet hiver. Donc, si vous êtes encore au chauffage mazout, moi, je vous dirais, c'est peut-être le temps de faire un petit switch ailleurs. Mais ça,
finalement, le 3% d'inflation d'Hydro-Québec, c'est pas si pire.
C'est ça, c'est ma petite opinion. Puis même là, tu sais, ils viennent le préciser, le 3%, c'est la limite, mais on estime plus ou moins 2,6%.
Oui, oui.
Donc, c'est quand même plus digestible là, comparé aux deux autres statistiques, mais ça reste quand même une augmentation parmi un
toutes
ensemble.
Toutes les autres, ouais, c'est ça le problème. Ben oui. C'est qu'il y en a partout, tout le temps, fait qu'on finit par se couper à la ceinture beaucoup trop, à mon goût.
Ça arrête pas, mais on va peut-être espérer avoir un break bientôt. Dans tous les cas, encore une fois, ça reste dans des confins énergétiques et dans des confins environnementaux. À l'électricité, ça vous coûte moins cher, puis c'est peut-être meilleur pour l'environnement. Fait que pensez
petit
à ça.
Petit clin d'œil de Sarah Manzano.
Wink, wink, pas trop discret, comme on dit. Mais là, on a d'autres nouvelles, là, par contre, un peu plus dans le local, un peu moins dans l'économie. On va aller dans le domaine des sports.
Oui, je te suis.
Tu veux-tu y aller pour une nouvelle un petit peu plus décevante ou un peu plus légère?
Hey, là, je sais pas. Là, je me dis, est-ce qu'on finit par la bonne nouvelle?
On va finir avec la bonne nouvelle.
Ouais, OK. Commençons par un sujet un petit peu plus lourd. Ben, ça dépend des personnes, là, mais selon moi, bon, c'est un sujet un petit peu plus lourd. Là. On a constaté que plusieurs années après que... Le Hockey Canada a commencé à utiliser les frais d'inscription des joueurs pour créer une importante réserve financière connue sous le nom de Fonds national d'équité. Puis ça, en fait, là, ça couvre les réclamations pour agressions sexuelles et autres poursuites judiciaires. L'organisation a rédigé une partie importante de cet argent vers un deuxième fonds de plusieurs millions de dollars à des fins similaires.
Tabarnouche. Fait que là, on va juste remettre un petit peu en
contexte.
On va vous remettre en bouche un petit peu la situation pour rendre ça un petit peu plus avalable. Mais dans le fond, on se souvient bien, Hockey Canada avait fait la sujet de controverse il y a quelques semaines de cela parce qu'on avait appris qu'il y avait des fonds ultimement qui viennent de nos poches,
exactement,
de nos impôts, de nos ressources. Et ces fonds-là avaient été utilisés pour cacher, pour couvrir le viol collectif, le supposé.
Il y en a eu plusieurs. Oui. Des...
Mais c'est un cas en particulier qui a relevé ça dans les médias.
Ouais.
Et c'était faut dire allege, le supposé, le potentiel viol collectif d'une femme qui n'a pas été nommée par plusieurs joueurs qui font partie là, de l'ensemble Hockey Canada. Et ces joueurs-là ont été couverts, ont réussi à être cachés là, par le biais de ces fonds-là. Et ça a été mis en lumière. Il y a eu beaucoup de pointage de doigts qui a été fait, beaucoup de oui. dénonciations. Et surtout, ils se sont fait complètement couper leurs fonds. Complètement, complètement. Et maintenant, on est en train d'apprendre que ben, ce fonds-là, il y avait un backup. Il y avait de l'argent
ouais,
en backup
ça,
pour couvrir encore plus de cas. C'est ridicule.
Oui, c'est ça, exactement. Puis on appelle ce fonds, ce deuxième fonds-là, un fonds en fiducie pour l'héritage des participants. Puis c'est quand même un fonds là, qu'on retrouve 7,1 millions de dollars là, provenant du Fonds national d'équité. Là. Fait que c'est un montant qui est énorme pour des trucs comme ça. C'est, là, on se... Hockey Canada se défend en disant que ce n'est pas seulement pour les abus sexuels, c'est également pour d'autres types de procédures judiciaires, mais on s'entend que...
Ah, c'est tellement rassurant savoir qu'ils risquent de faire face à un plateau de poursuites judiciaires, que c'est rassurant de savoir ça, et qu'en plus, qu'il y avait du cash de côté pour ça. Moi, j'aime le hockey, je le respecte en tant que sport, je trouve que ça fait partie d'une certaine forme d'héritage, mais c'est tellement propice là, à la prolifération d'une culture et d'une mentalité là, toxique, particulière, chauvinistique, là, qui, je pense, toi et moi, là, juste en tant que femme, ça vient nous chercher.
Ben, c'est sûr que ça vient me chercher. Moi, je trouve que c'est des chiffres énormes. C'est aberrant de voir ça. Puis, moi, je suis en train de... Je lis un article à la presse actuellement, là, oui. Puis on apprend que l'organisme a reconnu lors d'audience fédérale en juillet que le fonds avait été utilisé pour régler 9 plaintes pour agression sexuelle.
9 plaintes, holy...
Totalisant 7,6 millions de dollars depuis 1989. C'est
fait qu'on,
affreux.
On l'a en onde. Ce que ça coûte couvrir 9 cas de potentiel agression ou harcèlement sexuel, ça coûte 7,9 millions. Si vous avez le budget, ben félicitations. Vous allez pouvoir passer. Je deviens cynique.
Non, mais
je
comprends
harsh.
Ta frustration. Regarde, c'est des chiffres qui font mal à voir en tant que femme. Puis je pense que c'est important d'en parler. C'est important que la population soit au courant de ce que ces montants-là aident pour des raisons comme ça.
Je tiens à relancer, là, c'est pas juste important d'en parler, c'est important d'éduquer. Et quand je dis d'éduquer, là, ça suffit éduquer les filles, ça suffit éduquer les jeunes femmes. Oui, il faut les sensibiliser, oui, il faut être prudente, et oui, toi et moi, au quotidien, il faut prendre un certain nombre de précautions, mais éduquons nos jeunes garçons, nos jeunes hommes, ça va être par les mentalités des deux personnes qu'on va pouvoir éviter ce genre de situation-là. Ça suffit d'éduquer juste les filles à faire attention. Faut éduquer aussi les gars à juste ne pas le faire et ne pas avoir le réflexe de le faire.
Je crois à une génération qui va être beaucoup plus égalitaire pour les femmes. Puis aussi que la femme ne se sente pas tout le temps... pas en sécurité lorsqu'elle sort seule ou
pas toujours devoir regarder derrière son épaule.
Exactement.
Écoute, on va dropper le sujet qui vient. Ça vient chercher des émotions, ça vient chercher de la frustration. On va pitcher le méchant, puis on va penser à des événements plus heureux. On va penser au Marathon de Québec. Nouveau parcours, mais le même champion que l'année dernière. Le marathon avait lieu en fin de semaine, et c'est le marathon le Beneva de Québec qui a repris ce dimanche. Et c'est assez drôle, parce que le vainqueur n'a pas changé, ça reste David Mutaille, j'espère que je prononce bien son nom, qui est originaire du Kenya, et il a réussi à gagner la course là, en 2h24 minutes 21 secondes, soit un rythme soutenu de 3,26 minutes du kilomètre vraiment impressionnant.
Oui, puis il a même amélioré son chrono d'un peu plus d'une minute. Là, fait que c'est vraiment intéressant pour lui. Là.
Moi, ce que je trouve drôle là, dans son témoignage, là, t'sais, il justifie tout ça, le fait qu'il ait pu s'améliorer, etc., par le fait que le parcours était plus modéré que l'année dernière ou que la dernière fois qu'il l'a fait. Non, qu'en 2019, avant la pandémie. Donc, ça fait quand même un bon 2-3 ans là, qu'il n'avait pas couru de marathon comme ça. Et... il dit « Le parcours était plus modéré, donc tu sais, ça m'a permis de m'aider. » Et il aussi dit « L'ascension se fait au début plutôt que vers la fin, donc ça lui a permis d'être plus rapide vers la fin. » Là, dans la catégorie des femmes, c'est Nadia Bolduc qui s'est appropriée la victoire. Elle vient de Chicoutimi et c'était son premier marathon depuis la pandémie. Donc, crime, c'est un beau retour de sa part.
Ben oui, je suis vraiment contente. Surtout que Nadia, elle vient de ma région. Donc, bravo Nadia.
Chicout.
Mais non, c'est un très beau retour pour celle-ci là qui après la pandémie, elle avait comme elle remet ses souliers puis elle gagne le marathon. Je suis comme waouh, bravo là.
C'est inspirant.
C'est une très bonne nouvelle pour elle.
Ouais, en tout cas, on les félicite vraiment et on félicite aussi les 7700 coureurs qui ont pris part aux différentes épreuves proposées. Vraiment, moi, j'ai pas fait ça de mon dimanche. Je suis allée cueillir des pommes, fait que vous avez mon chapeau.
Oui, félicitations.
Bon, mais sur cette nouvelle un peu plus légère, on va retourner pour une dernière fois en musique avec Les Louanges. Et après le retour de musique, on va avoir une dernière petite capsule pour vous, chers auditeurs, mais rien de bien... développer. Donc, on vous revient avec ça. Ça sera pas très, très long.
Si demain j'ai encore la gueule, attends, t'inquiète, le ciel va finir par se dégager. Et si le fond du barricone phare brille on, j'élèverai mon dernier verre à votre. Dans la foulée, à mes éclatés, l'orage va bien finir par se tasser. Je feel comme un crash test dummy. Je pressens l'accident comme on attendait Messi. À demi conscient dans le taxi, sable mouvant sous le backseat. J'ai gap Messi, je crois je perds un peu la magie. Glam life QC, est-ce que ce sera ma vie? Nomme-moi la ville que tu veux, jure et j'ai mis le feu, charmer les tantes et les neveux, les cousines et les baveux. Fond de la partie sur le point de fondre en hier. J'ai séparé les eaux, aujourd'hui j'ai touché le creux.
J'ai touché le creux.
Si demain j'ai encore la gueule, attends, t'inquiète, le ciel va finir par se dégager. Et si le fond du barricone phare, bring it on, je lèverai mon dernier verre à votre santé. Oh, dans la foulée, à mes éclatés, l'orage va bien finir par se tasser.
Que tu ne comprends pas, c'est que j'ai passé la nuit au plus bas, entre les démons et le passé, plus envie de m'expliquer, le cœur au point d'imploser, je suis trop exposé, jusqu'ici tout va bien, mais le prix je le connais trop bien, donne-moi un peu de temps, que je retrouve mes yeux d'enfant, donne-moi ce goût d'avant. T'étais plus innocent. Après la pluie, vient le beau temps. Oui, mais l'orage fait du ciel ce qu'il est vraiment. Derrière mes yeux, il y a ton sourire. Et derrière le pire, toujours il y a l'avenir.
Et si demain j'ai encore la gueule, attends, t'inquiète, le ciel va finir par dégager.
Vous écoutez Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Ben oui, oui, vous avez les affamés dans vos oreilles, plus précisément Sarah Manzano et Megan Asselin, qui en ce moment sont pas mal bien rassasiées parce qu'elles ont quand même bien regardé l'actualité aujourd'hui. On est quand même une dernière petite capsule pour vous aujourd'hui. J'ai au téléphone avec moi le Félix-Antoine Audet, notre directeur de l'information à Chiz, qui va nous parler un petit peu plus en détail là, de la soirée électorale là, qui nous attend ce soir sur les ondes. Salut Félix, comment ça va?
Salut Sarah, j'espère que vous n'êtes pas trop rassasié, vous avez encore de la place dans l'estomac à dessert, là, parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de choses pour vous ce soir.
Ben, savais-tu, l'estomac a un compartiment exprès pour mieux digérer le sucre, donc techniquement, quand on dit qu'on a toujours de la place pour le dessert, c'est vrai.
Ben, sérieux, je savais pas.
Ah ben ouais, tu viens d'apprendre quelque chose.
The more you know, the more you grow, comme on dit en bon franglais. Fait que parle-nous de ça un petit peu, mon Félix-Antoine, qu'est-ce qui se passe ce soir?
Oui, j'ai vraiment hâte pour les auditeurs de Chiz, on a tout un programme pour vous ce soir, on commence à 20 heures. On veut vous éviter le tout blabla où il y a un show de 3 heures avant que les élections commencent pour vrai et que vous faites juste entendre les mêmes rengaines. On fait un petit retour sur la campagne, oui, sur les luttes à surveiller. On va vraiment s'assurer de faire un grand tour d'ensemble à partir de 20 heures pour ensuite regarder, décortiquer les résultats. Puis je pense que c'est une première aussi dans l'histoire de Chiz. On va avoir des journalistes à tous les rassemblements importants de Québec.
Oh wow.
Vous comprendrez, donc, les trois partis qui ont vraiment des chances d'être élus dans la région, là, soit les conservateurs, la CAQ et Québec solidaire. On va être présents sur le terrain, on va être avec vous. Et donc, dès 20 heures, c'est moi-même, Félix-Antoine Audet, Roxane, qui est notre ancienne directrice de l'information, Antoine Pellan-Raté, Émeric Boyer, un jeune nouveau de l'équipe de Chiz, et vous entendez Mégane Lasselin-Kivel va être au rassemblement de la CAQ ce soir, Jessica Poirier-Roy au rassemblement des de Québec solidaire, et quelques autres journalistes chez les conservateurs.
Puis là, quand tu nous dis, là, on va faire un portrait global, une revue globale, tu parles de la campagne électorale ou vraiment du pas juste ça, mais du mandat à François Legault aussi?
De la campagne électorale. On va revenir sur les moments marquants, les enjeux importants qui ont été discutés. Puis en même temps, ben on va faire le tour des circonscriptions qui seront le plus à surveiller. Évidemment, il peut toujours y avoir des surprises, mais ceux qui seront le plus chaudement disputés seront abordés en début d'émission.
Crimbin, ben c'est un beau programme qui nous attend ce soir. Rappelle-nous à quelle heure, mon cher Félix-Antoine?
On entre en onde dès 20h à ne pas manquer. On sera de 20h jusqu'à tard.
Donc, de 20 à tard sur les ondes de Chiz 94.3, vous aurez accès à notre suivi en direct de la soirée électorale. Merci beaucoup, Félix-Antoine.
Merci à toi, Sarah.
À bientôt. Donc, c'était Félix-Antoine Audet, notre directeur de l'information ici à Chiz 94.3. On est tellement choyés de l'avoir parmi nos directeurs. Pour vrai, là, une personne fantastique. Merci d'être avec nous, Monsieur Audet, si on va être très dans les formalités. Et surtout, merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, de nous avoir écoutés aujourd'hui, de nous avoir écoutés avec toute ta patience, toute ta beauté, tout ton amour et toute ton admiration pour nos voix sensuelles au micro. Et encore une fois... Encore à chaque lundi midi, merci Mégane de m'accompagner dans cette aventure de 1 heure.
Ben merci à toi, c'est vraiment plaisant d'avoir des belles conversations.
Crime, tant d'amour, tant de joie, en espérant que ça reste dans la joie et dans l'amour ce soir après les élections. On vous renvoie sur une pause et on vous dit à très très bientôt.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
C'est dimanche soir, vous vous sentez un peu maussade, vous auriez besoin d'un divertissement, un petit retour dans le passé, d'être témoin d'une complicité magique entre deux animatrices qui rendraient votre soirée plus lumineuse. Ben sachez que l'émission 10 entre nous est de retour cet automne et que la nostalgie coule à flot.
On vous amène dans notre enfance, dans nos premiers parties. On vous fait découvrir notre lieu natal, nos projets personnels et plus encore. À travers la musique, le cinéma, la littérature, les jeux vidéo, ces passions qui nous reflètent mieux que la vie en elle-même. Ne manquez pas 10 entre nous, un dimanche sur deux à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pardon de t'avoir perdu. c'est pas toi, mais moi qui a fait exprès. Pardon, j'ai manqué l'arrêt. Ton visage est caché par la ville. Je sais, t'as mal, t'en rases, tu ne respires plus. Et j'irai voir toutes tes créations, plus croire aux grandes attractions et posséder. Temps perdu, même si ta route est ardue, allons longer des vins en canot et être comme les cheminots. Acceptes-tu quand